1901 sur 90, c'est la radio des assos.
Une émission proposée par la GLCA, Centre Ressources pour la vie associative et l'économie sociale et solidaire de l'Ain, avec l'aide précieuse de Radio B. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mois de mai pour cette nouvelle émission et particulièrement heureuse d'être sur Radio B avec vous, auditrices et auditeurs, de l'autre côté du transistor et vous, invités dans ce studio.
Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Génier et Mélanie Taquet de l'Association des réseaux Rivières Sauvages. Bonjour.
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 1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'association et son histoire et pouvez-vous nous dire quelles sont ses valeurs, ses objectifs?
Qui s'y colle?
Vas-y,
Mélanie, je complète.
Ok. Alors, l'association s'appelle l'Association du réseau des sites rivières sauvages labellisés de France et d'Europe. C'est une association qui a été créée pour préserver, protéger les dernières rivières encore en très très bon fonctionnement, très très bon état de santé en France et en Europe. L'idée est partie en fait du fait qu'en France, on a énormément de structures et d'aides pour restaurer les rivières qui sont abîmées et très très peu d'outils pour protéger, préserver ce qui reste qui est encore en très bon état, en très bon fonctionnement et qui représente, on estime, à peu près à 1% seulement du linéaire en France en tout cas. Voilà. L'objectif, donc, c'est de remettre un label à ces rivières et à leurs gestionnaires qui œuvrent pour le maintien en bonne santé de leurs rivières, pour le fait d'essayer de la protéger, de la préserver au maximum, de la faire connaître aux gens aussi, de montrer la biodiversité exceptionnelle qu'il peut y avoir sur ces territoires. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter.
C'est Mélanie qui parle parce que Mélanie, en fait, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle fait partie des gens qui ont lancé l'idée, en fait, il y a une quinzaine d'années. Mmh. Voilà. Moi, je parle après parce que ça fait que 6 mois que je suis dans la boutique. voilà, donc c'est une idée qui trotte depuis 15 ans. Le label existe depuis 10 ans. On va fêter cette année les 10 ans du label. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une histoire particulière avec l'Ain. C'est que, alors, on est une petite association, mais on a une vocation nationale, finalement. Mais le siège est dans l'Ain, et sur la trentaine de rivières sauvages, il y en a 5 qui sont dans l'Ain. Et la première rivière labellisée, c'est la Valserine, voilà, dans le Haut-Jura.
Ben merci beaucoup. Et par rapport à l'association, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle se compose, comment elle fonctionne, son mode de gouvernance, combien vous êtes?
Alors, on a un fonctionnement qui est un peu particulier. L'idée de départ, c'était de ne pas forcément partir sur un fonctionnement avec une association. C'était de partir avec un fonds de dotation. Parce que les créateurs pensaient qu'en fait, ça serait plus facile de faire financer par des privés que par les pouvoirs publics. Et donc, ils se sont dit, on va chercher des fonds privés. Et il y a eu, alors c'est pareil, Mélanie connaît mieux l'histoire, mais il y a eu un premier don assez important qui a permis de lancer l'affaire. Et donc voilà, le premier pied, ça a été un fonds de dotation. Assez rapidement, les personnes qui étaient là se sont aperçues qu'il fallait aussi avoir un ancrage associatif, notamment pour pouvoir avoir des aides publiques. Et on a des aides publiques, donc on est aidé par le ministère de l'Environnement, par l'OFB, hein, l'Office français de la diversité, par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et par le département de l'Ain. Voilà, donc en fait, actuellement, on a un fonctionnement qui est un peu bicéphale avec une association qui porte le programme, qui porte toute l'équipe salariée, voilà, et il y a un fonds de dotation qui permet plus facilement d'avoir des fonds privés. Et donc, on est une équipe de 5 salariés, à peu près 3,5 équivalents temps plein. Et après, on a un conseil d'administration de façon assez classique.
Et pouvez-vous nous parler un petit peu de vos missions au sein de l'association? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Enfin, je crois que Mélanie, vous êtes un peu à l'origine aussi.
Oui, alors moi j'étais effectivement là au tout début, en déjà 2008-2009, dans les prémices en fait de cette association. C'est vrai qu'on s'est réunis, on était plusieurs personnalités différentes. Il y avait des pêcheurs, il y avait des techniciens de rivière, il y avait des scientifiques, enfin plein de gens qui se posaient toujours un peu la même question. Pourquoi est-ce que, en France, hein, puisqu'on est parti de la France quand même, pourquoi est-ce qu'en France, on a tout un tas d'outils pour préserver, protéger la nature, et pourquoi, malgré toutes ces couches d'outils qu'on peut mettre, notamment sur les rivières, et ben on arrive encore à les détruire. Et ça a été vraiment le cas, c'est ce qui a fait créer cette association. Ça a été le cas sur le Rizzanese, une rivière corse, sur lesquelles il y avait énormément de couches de protection, que ce soit des parcs, que ce soit des zones naturelles, faunistiques et floristiques, etc. Enfin, Natura 2000, etc., tout ce qu'on peut trouver. Et on a réussi quand même à faire un énorme barrage qui a abîmé complètement la rivière et l'écosystème qui était dedans. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un outil qui nous permette de préserver ces derniers joyaux en fait, de rivière qui peut rester en France. Voilà, ça a été vraiment... c'est parti comme ça. Moi, après, pour créer tout ça, on s'est dit... C'est ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, on va créer un fonds de dotation puisqu'on pensait vraiment attirer des fonds privés plus que des fonds publics. Ça a été l'inverse finalement qui s'est produit. Donc moi, je me suis mise en bénévolat pendant un peu plus d'un an pour créer ce projet, ce programme national de rivières sauvages. Et puis, donc là, au départ, c'était la création du fonds de dotation en 2010, la création du label qui est sorti en 2014, le fait de tester ce label sur différentes rivières pilotes avec notre grille de critères. Donc, il y a quand même 48 critères, donc c'est pas rien. C'était vraiment toute cette construction au départ. Et puis, une fois que ça commençait à tourner, donc mon travail, ça a été... il se divise souvent en quatre parties. La première, c'est d'aller parler du label, faire connaître notre label, notre outil sur les structures qui souhaitent intégrer Rivières Sauvages et qui le peuvent parce qu'elles ont des rivières de qualité. La deuxième, donc, c'est d'accompagner, quand les structures sont d'accord, d'accompagner ces structures, ces gestionnaires, tous les locaux qui le souhaitent, donc, dans la labellisation de leurs rivières. La troisième, c'est une fois que les rivières sont labellisées, eh bien, de continuer à les accompagner pour trouver des outils de protection, des outils de préservation, des outils financiers, de faire de la concertation s'il y a besoin, des études un peu particulières, innovantes souvent, puisqu'on est quand même sur des rivières patrimoniales. Et puis la dernière partie de mon travail, donc, c'est de leur proposer justement des études ou des outils un peu innovants qui peuvent concerner une ou plusieurs rivières, ça dépend un petit peu, pour pouvoir aller au-delà finalement des connaissances qui sont demandées classiquement, notamment par les agences de l'eau. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, quand on regarde l'état de nos rivières, elles ressortent tout le temps en très très bonne qualité un peu partout. Alors qu'en fait, il y a quand même des problèmes. Et donc, nous, on va creuser un petit peu plus loin, on va chercher plus loin. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans nos études qui sont un peu innovantes. Voilà les quatre parties de mon travail. Et puis après, bien sûr, c'est de travailler en lien avec mes collègues, l'association, et de faire vivre le réseau des sites labellisés de France.
Et vous ?
Et moi, c'est plus simple. On va dire que je gère la gestion. Je suis coordinateur. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens qui ont les compétences techniques, ce que je n'ai absolument pas vraiment, quoi, puissent travailler de façon fluide. Et que derrière, tout roule au niveau financier, au niveau gestion. Quoi. Je pense que j'aime bien le dire parce que je suis arrivé ici en ayant une connaissance des rivières qui est une connaissance de l'habitant moyen, quoi. Et je regardais une rivière, je trouvais jolie, pas jolie, etc. Mais j'avais aucune clé de lecture ce que c'était qu'une rivière sauvage ou pas sauvage, quoi. Alors, j'en ai quelques-unes. Je suis loin d'avoir acquis des compétences très techniques, mais mon œil a changé, vraiment, quoi. Et du coup, chaque fois que je me balade sur une rivière, c'était encore le cas dimanche près du Suran, je regarde différemment, puis je montre des choses que je suis tout fier de montrer des choses que je ne voyais pas avant. Voilà. Donc, et du coup, ce côté sensibilisation auprès d'enfants ou d'adultes, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il n'y a pas forcément besoin, effectivement, d'être un très grand technicien des rivières pour apprendre des petites choses qu'on peut apprendre à d'autres, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette dans la sauce.
Eh bien, super. Ça donne envie, en fait. Quelque chose d'autre à dire ?
Oui, je voulais juste rajouter. C'est vrai que j'y pense pas forcément à chaque fois, mais pourtant, c'est très important et ça prend une grosse partie de mon temps aussi. Mais c'est vrai qu'on est gestionnaire donc, des sites espaces naturels sensibles, rivières sauvages du département de l'Ain. Alors, on est gestionnaire de 3 sur les 5 sites. Ce qui nous implique en fait de gérer le programme d'action espace naturel sensible rivière sauvage sur ces rivières-là, d'avoir le lien donc avec les locaux, de créer les actions, de les réaliser, de les mettre en place. Donc on a pu faire des sentiers d'interprétation, des enlèvements d'ouvrages s'il y a besoin, plein de choses qu'on met en place. Alors ça tombe beaucoup autour de tout ce qui est sensibilisation, communication, préservation, hein, puisqu'on est sur des petites rivières et qui sont déjà relativement préservées. Et puis aussi parce que nous, on vient intervenir sur cette partie-là, en plus des gestionnaires qu'on appelle les GEMAPIens, donc syndicats de rivières, pour lesquels ils interviennent plus sur l'aspect continuité écologique de la rivière, tout ce qui est gestion des inondations, etc. Tout ce qui est plus lourd, en fait. Nous, on vient intervenir sur la conservation. Eux, ils sont plus sur la restauration.
On peut peut-être citer les noms des rivières, parce qu'en fait, moi, je ne les connaissais absolument pas. Et je ne suis pas sûr que grand monde les connaisse. Mais du coup, rien que donner le nom, c'est aussi les valoriser, quoi. Je te laisse faire, Mélanie.
Allez, on veut savoir.
Alors, première rivière sauvage de France, la Valserine, labellisée en 2014. Donc, a été labellisée de ses sources jusqu'au pont des Oules, donc qui sont vers les pertes de la Valserine. Donc, c'est quasiment la totalité du linéaire. On a enlevé juste 1,5 km parce que c'est la première, mais sinon, elle passait en entier. Voilà, les deux et troisième rivières sauvages de France donc, sont également dans l'Ain. Ce sont la Dorche et la Vézonce, donc qui sont vers Chanet, pas très loin de Bellegarde-sur-Valserine non plus, un peu plus petite en linéaire, mais avec des particularités très intéressantes. Okay. Et puis ensuite, on a eu l'Arvière, donc qui est plus vers le Val-Romais, Champagne en Val-Romais, notamment sur sa partie amont. Et puis l'Arvière et le Groin, donc qui est un affluent, une résurgence, voilà, qui a été labellisée également. La Perna, merci. Voilà, la Perna, donc qui est après Ambérieu, Ambugé, au niveau de Serrières de Briord et Bénonce, sur les hauteurs.
Ok, on en apprend des choses. Et maintenant, du coup, on vous propose un petit interlude musical qui a été choisi par nos invités. One,
when you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. You can't find when you feel
De retour dans 1901 sur 90 avec l'association des réseaux Rivières Sauvages.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette musique ? Alors ?
Oui, on a choisi cette musique parce qu'elle est dansante, elle apporte plein d'énergie et bon, elle parle de la rivière, hein, bien sûr. Elle dit que voilà, quand on est triste, quand on n'est pas bien, quand on est maussade, il faut qu'on aille au bord de la rivière. Alors c'est vrai que ça nous parle beaucoup, sachant que la plupart d'entre nous, je pense que c'est aussi ce qu'ils font pour se ressourcer. En tout cas, moi, ça me parle parce que c'est comme ça que j'arrive à retrouver l'énergie et à me ressourcer près de la rivière, quoi. Voilà.
Très bien. Merci pour la découverte.
Et on vous a demandé de venir avec un objet qui représente l'association. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? En quoi est-il représentatif ?
Oui, alors l'objet que je vous présente là, en fait, c'est le cadre qu'on appelle finalement le label ou le trophée ou ce qu'on remet finalement aux gestionnaires lorsqu'ils ont leur rivière qui est labellisée. Quand on fait des inaugurations, quand on fait la fête de la rivière sauvage, quand on remet le label, on remet ce cadre-là. Voilà. Okay. Avec donc une photo de la rivière sauvage, son nom, de quel endroit à quel endroit elle est labellisée, puisqu'on peut labelliser une portion de rivière sous certaines conditions. Et puis la date de labellisation. Avec, là, on est sur une photo de la rivière, donc forcément, on a le logo site espace naturel sensible et logo site rivière sauvage, qui sont des logos joints, en fait, assez particuliers au département de l'Ain.
C'est rigolo, la date, c'était un 21 mai 2019, oh, joie. Oui. Oui. Donc, c'était il y a 5 ans tout pile.
C'est ça.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est quoi les prochaines actualités à venir ? Est-ce qu'il y a des dates, des choses importantes à venir au sein de l'association, du réseau, tout ça ? Moi, des échéances des...
Vas-y.
Ouais.
J'en vois trois qui sont assez intéressantes. Alors, on parlait des rivières sauvages de l'Ain cette semaine, jeudi 23 mai, sur la Dorche aura lieu l'inauguration du sentier d'interprétation qu'on a fait dans le cadre du programme Rivières sauvages sur Chanet, la commune de Chanet. Tu veux préciser pour les 10 ans ?
Oui, donc ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on vous invite après à venir utiliser ce chantier, hein, ce qui permettra de découvrir la rivière pour ceux qui ne la connaissent pas, avec plein d'explications. Autre événement important et imminent, effectivement, c'est 10 ans de label dont on a déjà parlé. On va les fêter dans un mois. En Chartreuse, forcément dans un lieu où il y a une rivière sauvage. Donc c'est le Guiémor qui coule en Chartreuse. Et donc on va se réunir pendant 3 jours. Alors on va faire une soirée pour les 10 ans. On en profite aussi pour faire une rencontre de notre conseil scientifique, parce qu'il y a des scientifiques donc qui nous suivent depuis le début, donc c'est eux qui ont élaboré les critères. Et depuis, ils continuent à travailler sur ces questions-là et sur des nouvelles questions. Là, par exemple, on est dans un massif karstique. En fait, les sources du Guiémor sont en fait... il y a une rivière souterraine, en fait, avant la source du Guiémor. Et donc, on va réfléchir sur, éventuellement, la possibilité de labelliser des portions de rivière souterraine. Voilà, donc il y a vraiment un travail scientifique de qualité qui se fait. Donc, il y a ça. Et on va faire le deuxième jour notre réunion annuelle du réseau tous les ans. Tous les techniciens qui travaillent sur les rivières se réunissent et échangent sur des aspects vraiment très techniques ou aussi d'animation du label sur leur territoire. Et bien sûr, ça se finit par une visite de terrain. Donc, on va voir la rivière pour rester quand même 3 jours autour de d'une table, quoi.
Très bien. Et comment voyez-vous un peu l'avenir pour votre association? Quels sont les enjeux de demain et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Alors, je vais juste rebondir sur une troisième date, si c'est possible.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
On travaille avec notre programme Graines de Rivière Sauvage, donc qui est un programme pédagogique national. On travaille là sur une série de podcasts. Ça s'appelle... j'ai plus le nom en tête. Voilà, le son des rivières sauvages, qui ont été adressés auprès de 500 enfants, donc qui ont pu y participer, sur toute la France. Et donc, juste une autre date, si ça vous intéresse en tout cas de les diffuser, ça sera diffusable sur fin juin. Voilà.
Okay.
Donc voilà, il y aura 22 podcasts à diffuser.
Et l'avenir, je vais dire comment je le vois, moi tu diras après, mais toi, c'est de continuer à labelliser des rivières, parce que là, donc il y a eu beaucoup de labellisation quelques années. Là, on arrivait un peu à un palier, parce que il y a eu une réorganisation et qu'en fait peut-être qu'on a labellisé les rivières les plus simples à labelliser et que maintenant en fait ça demande un travail de terrain important, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais il y a une rivière, elle est labellisée non seulement parce que elle est de bonne qualité, mais aussi parce qu'il y a un travail qui se fait autour, une animation. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts, et c'est du temps. C'est vraiment du temps, hein, pour eux, donc c'est un vrai engagement à élaborer des projets et après les mettre en place, quoi. Et donc, on espère qu'il y a, il y a plusieurs dizaines de rivières qui sont dans les tuyaux, en fait, avec qui on est en contact. Il y a des dossiers qui sont en cours et on espère qu'il y en a qui vont aboutir bientôt. Ça, c'est la première chose. Et puis après, une autre chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a envie aussi que notre réseau, il inclut des bénévoles aussi, des gens qui aiment les rivières ou qui ont envie de découvrir et qui ont envie de faire des petites choses sur les rivières sauvages. Et on a plein de petites idées. Il y a déjà des choses qui se font. Voir la température de l'eau, voir l'évolution des espèces, voir l'évolution des débits. Et dans les années à venir, on aimerait bien faire en sorte que, comme ça, il y a des gens qui nous rejoignent et qui, à leur échelle, sur leur territoire, jouent un petit rôle pour aider à préserver ces rivières.
Je pense que tu as dit pas mal de choses. L'idée, c'est ça, hein, de toute façon, c'est d'essayer de... Et puis aussi, peut-être, de continuer à aider donc, les rivières qui sont déjà labellisées, puisqu'elles sont labellisées sur la durée du programme d'action qu'ils ont, donc qui est souvent de 3 à 5 ans. Et donc, après, les aider à renouveler leur label, à retrouver un programme d'action, à trouver l'envie de continuer à préserver leur rivière, quoi. Voilà, peut-être en incluant aussi davantage de structures, davantage de locaux... d'essayer de faire vivre en fait ce label sur les territoires par le biais de différents outils, hein, comme par exemple la fête de la rivière sauvage, pour que les gens s'approprient vraiment leur territoire et leur joyau, quoi.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. C'est l'heure de mettre un point final à notre interview. Emmanuel et Mélanie, je vous remercie d'être venus jusqu'à nous.
Merci à vous.
Merci.
1901 sur 90, l'actu associative.
Ce mois-ci, je vous partage l'édito du mois de mai qui est paru dans le Café Crème, qui est la newsletter de l'AGLCA. Une proposition de loi en faveur de la vie associative a été adoptée le 8 avril dernier par l'Assemblée nationale. Ce texte découle des assises de la simplification associative et des conclusions de la consultation nationale menée auprès des associations en 2023. Il comprend plusieurs mesures visant à encourager et à mieux reconnaître l'engagement bénévole et le volontariat, ainsi qu'à simplifier les démarches administratives des associations. Toutefois, il est à noter que ces mesures ne s'appliquent qu'à un nombre restreint d'associations. Voici un aperçu des principales mesures qui visent à promouvoir et à valoriser l'engagement associatif. Il y a donc l'extension des droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation via le compte d'engagement citoyen. La possibilité pour les associations éligibles au CEC d'abonder le CPF de leurs bénévoles. L'assouplissement des conditions pour bénéficier du congé d'engagement associatif. La facilitation de l'engagement des employés du secteur privé en élargissant le mécénat de compétences aux entreprises de moins de 5000 salariés et en prolongeant sa durée maximale de 2 à 3 ans. L'adaptation de l'engagement des actifs du secteur public en élargissant l'expérimentation du mécénat de compétences. Introduction d'une disposition qui permet à un salarié de faire don sous forme monétisée de ses jours de repos non pris à une association en accord avec son employeur. Par ailleurs, la loi elle vise aussi à simplifier les démarches des associations en abordant plusieurs aspects liés à leurs ressources, qu'elles soient locales et affiliées ou alors indépendantes. Cela se traduit par la simplification des conditions de prêt entre associations, l'autorisation de conventions de trésorerie entre associations membres d'un même groupe, l'harmonisation et l'élargissement des motifs de recours au tombola, loterie et loto, l'autorisation donnée aux communes d'accorder gratuitement une autorisation d'occupation temporaire de l'espace public aux associations. Enfin, la loi consolide le réseau national d'appui GuideAsso, qui est un programme qui vise à structurer les acteurs de l'accompagnement des associations et prévoit la rédaction d'un rapport par le gouvernement qui analyse la situation de l'emploi associatif et l'impact de la réduction des subventions sur cet emploi. Cet édito a été écrit par Renaud Drouet, le directeur de l'AGLCA.
1901 sur 90, l'agenda de la GLCA. Dans l'actu du mois, la coopérative jeunesse de service revient cet été. La CJS est une entreprise collective qui permet aux jeunes de 16 à 18 ans de découvrir le monde professionnel. Accompagnés par deux animatrices, ils vont apprendre à devenir entrepreneurs, gestion d'un budget, du planning, du marketing et mener des missions rémunérées sur Bourg et aux alentours. Une bonne façon de développer ses talents grâce à une première expérience professionnelle. Mieux qu'un job d'été, la CJS est une aventure humaine et collective où l'on fait de nouvelles rencontres et où l'on gagne de l'argent. Si tu as entre 16 et 18 ans, tu peux postuler dès maintenant. Toutes les informations sont sur le site de la CJS, www.cjs-bourque.fr. Également dans l'actu, le DLA de l'Ain propose un nouvel accompagnement pour les associations et coopératives qui souhaitent obtenir des financements européens, s'organiser pour financer sa structure. Cet accompagnement collectif et individuel vise à informer, former et coacher les porteurs de projets dans l'élaboration et le dépôt de leurs demandes de subvention. Ce programme est ouvert aux associations et coopératives de l'Ain qui emploient plusieurs salariés. Ce programme est gratuit. Les candidatures sont à nous adresser avant le 3 juin. Une réunion d'information se tiendra le jeudi 6 juin en visioconférence de 18h à 20h. La rentrée des assos 2024, ce sont les derniers jours pour inscrire votre association. Votre association a son siège social ou des activités à Bourg-en-Bresse. Inscrivez-vous avant le 1er juin pour participer à la prochaine édition de la rentrée des assos qui aura lieu le samedi 14 septembre au square Louis Parent. La prochaine Assemblée Générale de l'AGLCA aura lieu le mardi 11 juin prochain à 18h30 à la MCC de Bourg-en-Bresse. Retrouvons-nous pour ce temps fort de la vie de notre association. L'occasion de faire le bilan de nos actions, envisager l'avenir et échanger autour d'un verre. Pour participer, votre association doit être adhérente pour l'année 2024. Voilà, je termine cet agenda. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site aglca.asso.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux.
Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous et tous une belle journée et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. On se retrouve le mois prochain sur Radio B ou quand vous voulez, en podcast sur les sites de Radio B et de la GLCA à la rubrique 1901/90.